Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, il y a quelques mois, dans une revue nationale à grand tirage, qui n'est pas spécialement catholique, paraissait un article sur Sainte Jeanne d'Arc dans lequel on pouvait lire des lignes étonnantes à notre époque dans un magazine national. Je vous cite. « Ni le pape, ni les évêques n'affirment plus avec solennité et force la doctrine du Christ, roi des nations. » Elle est mise sous silence. On parle d'autre chose et surtout pas de royauté, ou alors purement spirituelle dans le cœur de chacun, mais pas dans les lois, les institutions, les mœurs, la politique. Pourtant, et nous n'avons pas besoin de longues démonstrations pour voir que si Jésus-Christ ne règne pas par les bienfaits qui résultent de sa présence, il règne par les méfaits qui résultent de son absence. L'auteur cite ici le cardinal Pi sans le dire. Il continue en disant « Et c'est jusque dans le pain quotidien que nous sentirons cette grande pitié quand il nous manquera. » Et donc, ajoute-t-il, la conclusion est simple, même si l'exécution est difficile. Nous avons à rétablir dans les institutions, les lois, les mœurs, la vie publique, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de citation. Il faut d'abord à nous rappeler que Dieu est roi en tant que Dieu. Le mot roi vient du latin regere, qui veut dire gouverner. Et Dieu gouverne le monde selon les trois pouvoirs des rois, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire. Pouvoir législatif. À ce monde qu'il a créé, Dieu a fixé des lois. Ce sont les lois, par exemple, du mouvement des planètes, les lois des saisons, les lois qui règlent la vie et la reproduction des plantes et des animaux. Et Dieu a aussi inscrit des lois dans le cœur des hommes, comme le dit saint Paul. C'est la loi naturelle qui est commune à toute l'humanité, dont le résumé est le décalogue, les 10 commandements révélés à Moïse, et qui sont les lois du bonheur des hommes et des sociétés quand ils les appliquent. On voit dans quel chaos tombe l'humanité quand on s'en écarte. Mais Dieu exerce aussi un pouvoir exécutif. Par sa providence, il gouverne ce monde qu'il a créé. Il le maintient dans l'existence à tout instant. Et s'il a laissé à l'homme le pouvoir de suivre ou non les lois qu'il a posées, il ne permet le mal qui en résulte que dans la mesure où il peut en tirer un plus grand bien, car rien n'échappe à Dieu. Ainsi, il permet les persécutions des chrétiens pour fortifier ses enfants et pour leur accorder le triomphe du martyr. Il permet la crise actuelle du monde et de l'Église pour que les hommes comprennent que c'est une folie de se séparer de Dieu et qu'ils se tournent avec plus d'amour avec lui pour leur bonheur le jour où Dieu rétablira toutes choses. Pouvoir judiciaire, enfin, récompensant les bons et punissant les méchants, parfois dès cette vie terrestre, mais surtout à la fin de la vie de chacun et au jour du jugement général. Mais il y a eu l'incarnation. Le Verbe de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, a pris notre nature humaine dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Notre Seigneur étant Dieu, règne d'abord sur ce monde en tant que Dieu. Mais comme l'humanité de notre Seigneur est unie à sa personne divine, notre Seigneur en tant qu'homme se trouve élevé infiniment au-dessus de tout le créé, ce qui lui confère un pouvoir royal sur toute la création, les anges compris. Ce pouvoir de roi que le Verbe avait sur nous en commun avec le Père et le Saint-Esprit, il en a donc reçu une délégation dans son humanité. On parle de la royauté de notre Seigneur par nature, la royauté sur toute la création que lui confère sa nature humaine unie à sa personne divine. Et on trouve tout cela dans la Sainte Écriture. David, par exemple, avait prophétisé dans les psaumes, et cela a été inséré dans la liturgie d'aujourd'hui. Par exemple, le graduel de la messe que nous avons chanté il y a quelques instants. « Il dominera de la mer à la mer, du fleuve aux confins de la terre. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. L'offertoire que nous chanterons tout à l'heure, et là c'est Dieu le Père qui parle à son Fils. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine les extrémités du monde. Citons encore le prophète Daniel. Sa domination est une domination éternelle, et son royaume ne sera jamais détruit. Cependant, au moment où notre Seigneur est venu sur terre, son royaume avait été ravi par le démon qui tenait l'humanité en esclavage depuis le péché d'Adam. Jésus-Christ venait donc par nous essentiellement pour une mission rédemptrice. Notre Seigneur est un roi sauveur, un chef de guerre, un héros. Et c'est sur la croix qu'a eu lieu le combat décisif par lequel il nous a délivrés. On peut dire que notre Seigneur nous a sauvés un à un, personne par personne. Comment ne pas être attaché à un tel roi qui a tellement souffert pour chacun de nous ? Vous n'avez pas été rachetés au prix de matières périssables comme l'or et l'argent, dit saint Pierre, mais par le sang précieux du Christ, offert comme un agneau sans tache et sans défaut. Nous étions esclaves, il nous a libérés, il a donc acquis un nouveau droit à être notre roi. Il est roi par droit de conquête, parce qu'il nous a conquis. Mais sa royauté est surtout spirituelle. Dans l'encyclique Quas Primas, qui est à l'origine de la fête de ce jour, le pape Pie XI dit que dans le royaume de notre Seigneur, les hommes se préparent à entrer par la pénitence. Et ils n'y pénètrent que par la foi et le baptême, qui, tout en étant un rite extérieur, signifie pourtant et produit une régénération intérieure. Ce royaume de notre Seigneur, c'est l'Église. L'Église qui est née le Vendredi Saint du côté percé de notre Seigneur, percé par la lampe du soldat. L'Église est le corps mystique du Christ, dont notre Seigneur est la tête et dont nous sommes les membres. Nous sommes comme les rameaux greffés sur le cep, vivant de la vie divine que notre Seigneur, notre tête, nous communique, si du moins le péché mortel n'a pas fait de nous des rameaux morts. Mais il y a la confession pour retrouver la vie. Mais ce corps mystique, invisible en soi aux yeux des hommes, se présente ici-bas selon une société hiérarchique, visible, fondée par notre Seigneur lui-même. Il fallait en effet une autorité pour garder son enseignement et pour l'expliquer. Il fallait des sacrements visibles pour nous donner la certitude que nous recevons la grâce, sinon on ne saurait jamais si on l'a vraiment reçue. Cette Église, notre Seigneur, lui a donné la mission de se répandre dans le monde entier pour faire connaître à tout l'univers le mystère du salut et pour étendre ainsi le corps mystique. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais cela ne se passe pas sans combat. Pour accomplir sa mission, l'Église sera en lutte jusqu'à la fin du monde contre les puissances des ténèbres. Dans sa rage d'avoir été détrôné, Satan essaye d'entraîner le plus d'hommes possible dans sa défaite, en suscitant toutes sortes d'oppositions à l'Église, persécutions physiques, hérésies, etc. C'est ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité, mysterium iniquitatis. Mystère d'iniquité qu'il voyait à l'œuvre déjà de son temps et qui doit culminer avec l'Antéchrist avant la victoire définitive de notre Seigneur. Nous n'y sommes pas encore, mais nous voyons ce mystère à l'œuvre aujourd'hui dans la déchristianisation organisée de nos pays et dans la crise qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Il y a quelques jours à Rome, dans cette Rome où des milliers de chrétiens sont morts pour avoir refusé de rendre un culte aux idoles, des indigènes d'Amazonie ont adoré leur faux dieu dans les jardins du Vatican en présence du pape et de plusieurs cardinaux. Mysterium iniquitatis, vraiment. Mais si le royaume que notre Seigneur est venu étendre sur cette terre est essentiellement spirituel, ce serait une erreur honteuse, remarque Pie XI, de refuser au Christ homme la puissance sur les choses civiles, quelles qu'elles soient. En effet, s'il est dans la nature de l'homme de ne pas pouvoir se passer d'une société, c'est parce qu'il a été créé ainsi par Dieu. Alors la société doit faciliter le plan de Dieu sur les hommes. Elle doit élargir le chemin du ciel, dit saint Grégoire le Grand. Alors la doctrine catholique est que les chefs des nations ont le devoir de promulguer des lois conformes à la loi naturelle, de faciliter l'action de l'Église, d'honorer publiquement leur Créateur, leur Sauveur et leur Roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Les chefs des nations seront jugés là-dessus, leur jugement personnel et général, et au jugement général. Et s'il paraît anachronique de dire cela dans le climat actuel de laïcisme, eh bien, continuer à le proclamer, c'est le meilleur service que nous puissions rendre aux hommes de notre temps, parce qu'il n'y a pas d'autre solution sur terre. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre que notre Seigneur, seul Dieu et seul Sauveur des hommes et des sociétés. Je vous cite un des beaux hymnes de la fête du Christ roi, par exemple. Le Christ triomphant déploie largement ses étendards glorieux. Nations, venez à lui suppliantes et acclamez le roi des rois. Ce n'est point par les massacres, la violence ou la crainte qu'il a subjugué les royaumes. Élevé sur un haut gibet, il a tout attiré par l'amour. Ô trois fois heureuse la cité à qui le Christ commande comme il se doit et qui s'avance pour accomplir des lois données au monde par le ciel. Conclusion pratique, eh bien d'abord étudions cette doctrine du Christ roi, elle est fondamentale. Elle est au cœur du combat actuel, depuis que la contre-église a rejeté notre Seigneur de la société à la Révolution française, et qu'elle a réussi le coup de maître au Concile Vatican II de faire abandonner la doctrine du Christ roi par les autorités de l'Église. Nous avons mis à la sortie, vous trouverez, si vous le désirez, quelques ouvrages sur le Christ roi. Prions aussi notre Seigneur, bien sûr, pour qu'il ramène ceux qui se sont séparés de lui au port de la vérité et à l'unité de la foi, comme nous le dirons ce soir devant le Saint-Sacrement exposé en renouvelant l'acte de consécration du genre humain au Sacré-Cœur. Si Pie XI d'ailleurs a demandé que ce soit la consécration au Sacré-Cœur qui soit dite en cette fête du Christ roi, c'est bien pour nous rappeler que la royauté de notre Seigneur est une royauté d'amour. Et surtout, travaillons toujours plus à le faire régner là où nous en avons le pouvoir, sur toutes nos pensées et sur notre intelligence, sur notre volonté, en la soumettant à la volonté de notre Seigneur à tout instant, dans la famille, en la consacrant au Sacré-Cœur et en faisant en sorte que le Sacré-Cœur soit vraiment le roi de la famille. Et puis partout, nous pouvons avoir quelque influence. C'est ainsi que nous travaillerons pour l'Église, pour notre pays, et que nous avancerons le jour de la victoire du Christ roi et de Marie-Reine, jour qui viendra infailliblement. Alors, au cours de cette messe, demandons à notre Seigneur et à Notre-Dame qu'il nous y aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.